Peut-on faire rimer croissance économique et transition écologique? Rendre compatible profit et urgence climatique? C'est en tout cas confiant dans le projet de troisième révolution industrielle et avec dans les poches les termes d'un contrat de transition écologique que Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a rendu visite à la communauté urbaine d'Arras dans son siège de la Citadelle. La réunion de travail de ce jeudi 11 janvier a permis de réunir acteurs privés et publics afin de poser sur la table des négociations les premiers éléments d'un contrat dont les buts sont à la fois écologiques et sociaux. Produire de l'énergie plus propre, faire des économies d'énergie, réduire les émissions de CO2 et de polluants, et par tous ces biais, créer des emplois. De quoi s'agit-il plus précisément? De faire de la communauté urbaine de l'Arageois un territoire d'expérimentation en matière d'écologie industrielle, d'y tester des projets de technocentres, d'éprouver les actions en matière de rénovation thermique de l'habitat, d'investir dans la production d'énergie durable pour ensuite généraliser à l'ensemble du pays ce type de dispositif. Dans un territoire qui garde les séquelles des deux premières révolutions industrielles, on peut légitimement douter du bien fondé d'un capitalisme technologique pour stopper le pis-aller environnemental. Sceptiques et mauvaises langues sont pourtant priés de s'abstenir. Une révolution est en marche, et d'ailleurs, qui s'opposerait à la création d'emplois en terre de chômage, qui renoncerait aux bénéfices écologiques de la transition énergétique? Nous y sommes habitués, les vocables « changement » et « révolution » fusent à tout va ce jour-là. Pourtant, le véritable changement concerne les modes de financement, car la transition écologique se fera avec ou sans ce gouvernement. Qu'est-ce à dire ? Que c'est la mise en compétition des territoires, et nous voyons ici qu'Arras est visiblement bon élève, pour l'obtention de financements qui est surprenante, que c'est l'imposition d'une logique rentable sur des sujets d'autonomie énergétique et de sauvetage environnemental qui interpelle, que c'est la participation d'investisseurs privés à la table des négociations, et avec le ministre comme intrometteur qui frappe, alors qu'il s'agit de sauver la planète, de régénérer la vitalité du territoire, de bousculer un système économique dont on constate les dégâts sur la nature et les relations sociales. À ce titre, Sébastien Lecornu ne manque pas de rappeler que négociation il y aura. Ainsi, les collectivités devront batailler pour sauver leurs intérêts et se désadministrer face à des professionnels du marchandage pour que la magie privée-publique permette, selon ses dires, d'accélérer le processus. Avant d'écouter ce dernier, parole à Philippe Rapneau, président de la communauté urbaine d'Arras, acteur de premier plan dans l'attribution du contrat au territoire arageois.
Nous, on a engagé ce travail il y a 2 ans. Au-delà du territoire TEPCV, on avait la volonté de travailler à la transition énergétique sur le territoire de la communauté urbaine, avec quelques idées très claires. C'était être en capacité à développer l'autonomie énergétique du territoire, c'est-à-dire produire davantage sur notre territoire l'énergie qu'on consomme, réduire bien évidemment aussi les consommations d'énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis avec cette volonté très claire que ça nous permette de créer des emplois. Et donc on a engagé ce travail dans ce sens. Et il se trouve que ce qu'on faisait correspondait tout à fait à ce qui était proposé depuis quelques mois maintenant dans ces contrats territoriaux écologiques. Donc bien évidemment, je me suis permis de prendre le contact avec le représentant du gouvernement, et notamment Sébastien Lecornu, en lui disant on a fait le travail en amont, on est prêt, on peut appuyer sur le bouton très vite. Et j'ai donc proposé que Arras puisse participer à cette belle aventure. Et voilà, donc c'est parce qu'on avait anticipé qu'on était prêt, et tout simplement. Ouais. Nous, on avait prévu de faire les choses à notre rythme, à notre niveau. Maintenant, si ce contrat territorial écologique nous permet d'aller plus loin, plus vite, bien évidemment, on ne va pas s'en priver. On a besoin de financement, c'est des opérations qui vont être à la fois portées par le public, par le privé. Et bien évidemment, si demain, il y a un peu d'argent en espèces sonnantes et trébuchantes qui tombe, on va prendre pour aller plus vite et plus loin, comme je le disais.
Cette transition, elle se fait avec l'ensemble des acteurs économiques, industriels, tertiaires, également le monde agricole, les universités, le monde de l'enseignement. C'est nouveau, ça ?
C'est nouveau, c'est la différence peut-être un petit peu par rapport aux démarches précédentes, mais c'est pas surprenant sur le territoire, et je le dis, c'était un peu le contenu de mes vœux hier à la communauté urbaine, c'est la volonté de travailler en équipe ici, et c'est toujours ce qu'on essaye de faire, et les gens avant, ils avaient tendance à dire, ah c'est moi qui l'ai fait, cloisonner leur démarche, etc. Moi j'ai vraiment envie de l'ouvrir à l'ensemble des acteurs, et voir même au territoire voisin. Moi je le dis, on a des territoires ruraux qui ont leurs particularités, leurs spécificités, ils ont des problèmes d'ingénierie, etc. Nous on en a, on peut leur mettre à disposition, ils vont nous apporter d'autres richesses. Et donc c'est pour ça que ces échanges sont importants. Et puis on a aussi un bassin minier à côté avec lequel on peut faire de belles choses et de grandes choses, qui a été, comme l'a dit le ministre, fortement éprouvé dans le cadre de la désindustrialisation. Et là aussi, il y a des emplois à créer. Et donc ce partenariat, c'est une question de philosophie, c'est une question de fonction, de façon de travailler. Et je suis désolé de dire, enfin ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais il faut taper un peu dans la butte de temps en temps, il faut faire les choses autrement. Moi c'est ma façon de fonctionner, c'est ma philosophie.
Parler du bassin minier, on parle de transition écologique. Est-ce que l'extraction de gaz de couche est toujours dans les tuyaux ?
Pour ce qui est du gaz de couche, si on parle bien de la même chose, il n'y a jamais rien eu dans les tuyaux. Moi la seule chose que je connaisse en termes d'exploitation de gaz, c'est le gaz de houille. Et donc c'est le gaz qui s'échappe aujourd'hui naturellement et qui vient fortement d'ailleurs contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est du méthane qui s'échappe naturellement de nos anciennes exploitations houillères. Et ce méthane, il a un effet polluant important et l'effet de serre est 40 fois plus puissant, entre 35 et 40 fois plus puissant que le carbone. Et donc l'idée qui est développée aujourd'hui de capter ce gaz qui s'échappe naturellement pour l'utiliser localement me paraît une très bonne chose. Et là, je dis, je suis peut-être un petit peu en désaccord avec le ministre Hulot, c'est que je pense que c'est une erreur d'interdire l'utilisation à terme de ce gaz fossile. Parce que de toute façon, il s'échappe naturellement dans la nature. Et donc, ce qui est porté par Gazonor, etc., va tout à fait dans le bon sens. Et je pense même qu'il faudrait leur donner une fiscalité verte qui permettrait plus facilement encore d'utiliser ce gaz.
Quelles sont les principales propositions que vous voulez mettre en avant ?
Je l'ai dit, l'idée c'est de travailler à notre autonomie, c'est de multiplier par 5, par 10, par 12, par 15, on verra. Mais notre capacité à travailler à notre autonomie énergétique, c'est quand même mieux d'avoir des énergies renouvelables plutôt que d'utiliser des énergies fossiles qu'on fait venir de loin et de les produire sur le territoire avec des emplois locaux non délocalisables, de réduire notre facture énergétique globale sur le territoire et puis de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ce qui pourra être fait dans ce domaine sera intéressant.
Quelques précisions s'imposent. Il ne faut effectivement pas confondre gaz de couche et gaz de mine, tous deux généralement regroupés sous le terme de gaz de houille. Si effectivement le gaz de mine qui s'échappe naturellement constitue une source d'énergie facilement exploitée, le gaz de couche en revanche nécessite une exploitation par fracturation hydraulique extrêmement polluante et coûteuse. Si un projet de loi a été déposé par le ministre Hulot pour abroger l'exploitation de gaz de couche, celui-ci joue double jeu puisqu'il autorise partout en France les projets de recherche. Mais ne nous égarons pas, il s'agit ici du contrat de transition écologique dont Sébastien Lecorny nous explique les tenants et aboutissants.
Ce qui s'est passé aujourd'hui à Arras, c'est quoi ?
C'est l'acte 1 d'une révolution, on peut le dire comme ça, pour l'État comme pour les collectivités territoriales, dans la manière d'envisager la transition écologique sur un territoire. Et c'est une véritable expérimentation, ce sont ces contrats de transition écologique pour lesquels on va apprendre à les créer, à les négocier, à les construire avec la communauté urbaine d'Arras, avec Philippe Rapneau, son président, qui est engagé depuis longtemps sur ces questions écologiques et qui a fait de son territoire un territoire en avance. Et avec les contrats, on va pouvoir justement encore prendre de l'avance. Et donc je suis venu personnellement justement installer ce comité de négociation pour aboutir sur la signature d'un contrat avec plein de projets qui seront bons pour le territoire et bons pour la planète dans les mois qui vont venir.
C'est-à-dire produire davantage d'énergie, de l'énergie propre et en consommer le moins possible ?
Alors, l'énergie, vous avez raison, est un élément, une identité majeure du contrat. C'est la performance énergétique des bâtiments ou des logements, puisque l'énergie que l'on ne consomme pas, par définition, c'est une énergie propre qu'on produit. Également les énergies renouvelables, je pense fort à la méthanisation, la capacité pour les agriculteurs à produire de l'énergie, donc à créer des revenus, notamment pour les éleveurs. Je pense que c'est quelque chose qui est très important quand on connaît le modèle économique de nos fermes d'aujourd'hui. Mais également le circuit cours dans les cantines scolaires, la biodiversité, l'écomobilité, que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain, les transports en commun. Bref, il y a plein d'actions qui sont importantes pour la planète, mais qui sont aussi bonnes pour créer des emplois sur le territoire.
L'idée, c'est de faire également plus vite. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut accélérer?
Déjà, ce qui coince, c'est le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a déjà des objectifs pour la planète qu'il faut remplir très vite maintenant. Je pense que des ouragans comme Irma ou Maria sont venus quand même nous rappeler très durement qu'on a une urgence à avoir des réponses. La réponse à l'international, mais il faut que celles et ceux qui nous écoutent comprennent aussi que les réponses, elles sont dans le quotidien. Alors il y a les gestes quotidiens en tant que citoyen, la gestion de l'eau, ses déchets, mais il y a aussi ce que les maires et les élus communautaires, régionaux, départementaux peuvent accomplir pour cette transition écologique. Ça, c'est la véritable urgence. Puis la deuxième urgence, c'est que, je le dis, sur un territoire qui accumule des difficultés économiques importantes liées à la deuxième révolution industrielle, qui reposait beaucoup sur l'énergie fossile, le pétrole et le charbon, hein, pour faire vite, y a une urgence à recréer des emplois et à s'accrocher à cette nouvelle économie qui est assez prometteuse pour la France, c'est le pari que le président de la République fait, et encore plus peut-être pour un territoire comme ici dans les Hauts-de-France.
Vous avez dit qu'un changement de modèle dans la transition écologique, est-ce que c'est pas dangereux d'essayer de rendre compatible les investissements privés, la nécessité du bénéfice et l'urgence climatique?
Ah non, au contraire, c'est la clé de la réussite. Je veux dire un truc, pourquoi ça, ce qui serait bon pour la planète ne permettrait pas de gagner un peu d'argent? C'est ça la révolution aussi, ce qu'on a fait en un semestre. On n'est pas condamné dans une logique de simple subvention ou un modèle économique seulement à perte. Les énergies renouvelables deviennent enfin compétitives. Jusqu'à présent, il fallait donner des subventions pour que le solaire ou l'éolien soit compétitif. C'est-à-dire que pour que quelqu'un installe une éolienne, il fallait qu'il touche de l'argent, qu'on lui garantisse un prix de rachat d'électricité pour être sûr qu'il puisse mener cet investissement. Pour la première fois, par exemple, pour parler d'éolien offshore, en mer du Nord, un projet a eu cours sans subvention publique. Parce que justement, l'offre commence à rencontrer la demande. Tout simplement parce que ce sont les personnes qui nous écoutent actuellement, c'est-à-dire en tant que consommateurs, qui financent en fait cette transition écologique en consommant différemment. À nous de produire un modèle nouveau.
Vous comprenez qu'il puisse y avoir des réticences vis-à-vis d'une troisième révolution industrielle dans un territoire dévasté par ces deux premières révolutions?
Non, je ne peux pas le comprendre pour une simple et bonne raison que déjà, j'ai jamais entendu de personnes qui doutaient. Et s'il y en a, à ma connaissance, elles n'ont pas franchement fourni de plan B. Donc moi, ce que je constate, c'est que la fin de la deuxième révolution industrielle, effectivement, a créé des dégâts sociaux. On le voit dans le bassin minier. Ce sont des questions plus que je connais par ailleurs en tant que ministre. La troisième révolution industrielle, ce qui a été imaginé par Philippe Vasseur, Xavier Bertrand et tant d'autres, c'est la meilleure des réponses et c'est la plus opérationnelle. Je crois, sous le contrôle des élus qui m'entourent, qu'on a pratiquement créé plus de 10 000 emplois quand même avec la troisième révolution industrielle, dit Rêve 3. C'est concret. Moi, je suis pragmatique. Seul le résultat compte.
Pourquoi ce qui serait bon pour la planète ne permettrait-il pas de gagner un peu d'argent? Le gouvernement Macron a visiblement bien saisi l'intérêt économique d'un capitalisme vert. D'ici à nous faire croire à un capitalisme propre, il n'y a qu'un pas. Il est pourtant difficile de savoir quel enseignement tiré d'une telle journée de travail, de savoir le bénéfice à retirer pour les citoyens d'une telle incursion de la force privée dans les thèmes écologiques. C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier.